RFI, 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous consacré à l'actualité française.
Christophe Paget.
Près de 200 millions d'euros, c'est la somme que va mobiliser la France pour aider l'Ukraine, annonce ce dimanche du ministre des Armées qui explique que l'argent va être récolté grâce aux intérêts des avoirs russes gelés. Plus d'un enfant par classe, concerné en moyenne par le harcèlement scolaire, qui n'est pas toujours le fait d'élèves. Ce lundi s'ouvre en région parisienne le procès d'une enseignante pour harcèlement sur mineurs. Et puis en rugby, le capitaine de l'équipe des Bleus, Antoine Dupont, ne pourra pas jouer pendant plusieurs mois pour cause de rupture des ligaments croisés lors du match Irlande-France d'hier.
24 heures en France.
La France va mobiliser près de 200 millions d'euros pour aider l'Ukraine, annonce du ministre des Armées Sébastien Lecornu dans une interview à la Tribune dimanche. Une somme récoltée grâce aux intérêts des avoirs russes gelés et qui doit permettre de livrer des obus et des bombes pour les avions ukrainiens. Dans cet entretien, Sébastien Lecornu détaille aussi l'effort de défense considérable que va fournir la France après les dernières déclarations de Donald Trump. Victorien Villaume.
Preuve que le sujet de la défense prend une nouvelle place dans l'actualité, Sébastien Lecornu multiplie les interviews ces dernières semaines. Face au risque de conflit en Europe, le ministre des Armées liste les urgences de la France pour les années à venir. Munitions, guerre électronique, robotisation des armées. Sébastien Lecornu confirme que la France veut accélérer les cadences de son industrie de l'armement. La production de ce qu'on appelle des bombes planantes, par exemple, devrait doubler dans les deux prochaines années. Et pour arriver à ces objectifs, des partenariats industriels sont en train de se constituer, comme entre le groupe français Thales et un fabricant français de drones. Enfin, le ministre des Armées souhaite un débat sur ces sujets dans la classe politique et une information transparente. Les présidents des groupes parlementaires seront invités cette semaine pour échanger avec l'état-major des armées.
Et selon une enquête Ipsos réalisée pour la Tribune dimanche, 2/3 des sondés se disent favorables à l'augmentation des dépenses militaires de la France. Outre Sébastien Lecornu, comme tous les dimanches, les politiques français ont été interviewés à la télévision et sur les stations de radio, toujours sans surprise sur Donald Trump et la guerre en Ukraine. François Hollande a ainsi estimé qu'Emmanuel Macron avait été lucide sur la menace russe lors de son discours à la télévision cette semaine. Par contre, l'ex-président trouve qu'il a été trop discret sur le lâchage de l'Ukraine par Donald Trump, parce que, je cite, « c'est en ce sens qu'il y a un risque pour la sécurité du continent européen ». Il l'a dit sur le grand jury RTL-M6, Le Figaro Public Sénat. De son côté, sur BFM TV, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, a jugé que Marine Le Pen était une ennemie de l'intérieur et que son patriotisme est de papier, car, je cite, « la présidente du Rassemblement National maintient une ambiguïté vis-à-vis des présidents américains et russes ». Le gouvernement français, lui, invite le secteur de la recherche à réfléchir à l'accueil de chercheurs américains. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a effectué des coupes brutales dans les financements de la recherche et licencié des centaines d'employés du secteur. En France, Aix-Marseille Université a déjà annoncé cette semaine qu'elle mettait en place un programme d'accueil de chercheurs américains, notamment sur le climat. Ce dimanche, la directrice de l'Institut Pasteur parle d'une triste opportunité, mais d'une opportunité quand même. C'est un fléau dans les collèges et les lycées en France, le harcèlement scolaire. En moyenne, plus d'un enfant par classe est concerné. Et si en très grande majorité, les harceleurs sont d'autres élèves, les enseignants sont aussi parfois pointés du doigt. C'est d'ailleurs une enseignante qui est jugée à partir de demain devant le tribunal correctionnel de Pontoise, en région parisienne, pour harcèlement moral sur une collégienne qui s'est suicidée en 2019. Un tel procès impliquant l'éducation nationale est une première en France. Baptiste Coulon.
Devant les enquêteurs, elle dit être cash, exigeante, mais certainement pas rabaissante. L'audition des témoins raconte pourtant une autre histoire, celle d'une professeure de français qui n'hésite pas à humilier, voire insulter toujours les mêmes élèves, ceux en difficulté. Eva, elle, en classe de 6e, est décrite par ses parents comme forte et fragile. Elle est dans le viseur de l'enseignante, alors qu'elle subit déjà des moqueries et des violences de la part d'autres élèves. Un matin, sa professeure organise 2 heures de vie de classe, pas vraiment comme les autres. Eva, elle, est au centre des discussions. Debout face à ses camarades, l'enfant de 11 ans doit expliquer pourquoi elle se dit harcelée. La séance tourne à l'humiliation, elle pleure, la professeure lui dit d'arrêter. « C'est la pire journée de ma vie », dira-t-elle à ses parents. Désormais, l'enseignante l'isole au fond de la classe, refuse de la changer de place malgré ses problèmes de vue. Pour ses parents, aucun doute, ce comportement est perçu par les autres élèves comme une autorisation à s'en prendre à leur fille. Eva, elle, se suicide 3 mois après avoir changé d'établissement. Le protocole anti-harcèlement mis en place n'a pas pas empêché le drame. Quant à la direction du collège, elle a toujours fait bloc derrière l'enseignante qui n'a jamais reconnu les faits de harcèlement.
L'enseignant qui risque jusqu'à 3 ans de prison, 2 élèves sont aussi envoyés devant un juge des enfants. Jean-Michel Apathy ne reviendra pas sur la radio RTL. Le journaliste avait été suspendu une semaine après avoir dit à l'antenne que la France avait commis des Oradour-sur-Glane en Algérie lors de la colonisation. Oradour-sur-Glane, c'est ce village dont 642 habitants avaient été massacrés par la Waffen-SS en juin 42. Jean-Michel Apathy explique refuser de valider ce qu'il considère comme une punition en revenant à l'antenne. « Je n'ai pas commis de faute. Nous avons commis des crimes atroces lors des conquêtes coloniales et nous ne l'avons pas reconnu. » Le président du Rassemblement national parle de son côté d'une odieuse falsification de l'histoire. Les propos du chroniqueur avaient suscité plusieurs signalements auprès de l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel.
24 heures en France.
Nous t'accompagnerons dans cette épreuve pour que tu reviennes plus fort. Réaction du Stade Toulousain, le club d'Antoine Dupont, après cette annonce. Le capitaine de l'équipe de France de rugby, sorti blessé lors du match du tournoi des Six Nations contre l'Irlande hier, souffre d'une rupture des ligaments croisés. Et le capitaine des Bleus sera absent des terrains pendant plusieurs mois. Cédric De Oliveira.
Son genou droit n'a pas tenu face aux Irlandais et sa sortie en plein match contre le 15 du trèfle faisait craindre le pire. Boîte en bas et soutenu par le staff médical, Dupont avait péniblement quitté le terrain en larmes et le verdict est tombé ce dimanche. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés. Le numéro 9 du Stade Toulousain et des Bleus l'a confirmé sur son compte Instagram, précisant que le cœur était encore plus douloureux que le genou au moment d'abandonner ses coéquipiers pour la suite du tournoi Destination. Rendez-vous dans quelques mois, a-t-il ajouté. C'est un coup dur pour la star française qui, à 28 ans, semblait dans la forme de sa vie. Mais comme en 2018, encore face à l'Irlande, c'est son genou droit qui a été touché et sa convalescence sera longue. Dupont, si essentiel pour le jeu du 15 de France et de son club, va donc manquer toute la fin de saison et le début de la prochaine. On ne devrait pas revoir le capitaine avec le maillot bleu avant début 2026 et le prochain tournoi Destination.
Dernier match contre l'Écosse des Bleus samedi prochain au Stade de France, sans Antoine Dupont. Son club, le Stade Toulousain, se passera de lui en phase finale de Champions Cup et de Top 14. Paris-Nice, c'est du cyclisme et c'est le Belge Tim Merlier qui a remporté la première étape du Paris-Nice au sprint. Deuxième étape demain entre Montesson dans les Yvelines et Bellegarde dans le Loiret. Le Centre Pompidou ferme ses portes demain soir. À la fois musée et bibliothèque, Beaubourg, comme on l'appelle couramment, va se refaire une beauté. Et les 2000 œuvres d'art exposées en permanence sur les 150 000 en stock, c'est la plus grande collection au monde avec celle du MoMA à New York, ces œuvres vont être réparties dans d'autres grands musées en France et à l'étranger ou mises en réserve. Pour les admirer, gratuitement, les amateurs ont encore jusqu'à demain 21h. Vincent Danilo en a rencontré quelques-uns ce dimanche.
Devant l'imposante structure métallique, les visiteurs étaient nombreux pour le dernier week-end d'ouverture du musée. Sonia, qui avait l'habitude de le visiter avec son fils, est venue y partager un dernier moment avec lui.
Je suis triste que le musée ferme pour 5 ans, mais en même temps, voilà, je suis curieuse de savoir ce qu'ils vont en faire.
Même pour les moins férus d'art moderne, comme Jérôme, impossible de louper l'événement.
Moi, je préfère l'art de la Renaissance, les impressionnistes, etc., mais j'aime bien venir à Beaubourg pour être surpris. Et je m'aperçois qu'une fois encore, même si j'avais fait des collections plusieurs fois, je reste surpris. Là, par exemple, j'avais oublié que Chagall me plaisait autant.
Chagall, Matisse, Dubuffet, le Centre Pompidou détient plus de 140 000 œuvres d'artistes. Et une fois la visite terminée, ces œuvres ne laissent personne indifférent. C'est le cas pour Sandra.
Ça questionne beaucoup. Une œuvre plus classique, c'est plus de la sensibilité. Là, je trouve que c'est, voilà, ça questionne et ça demande un petit peu plus de pourquoi, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre, etc. Donc ça questionne un peu plus que peut-être des œuvres plus classiques.
Le Centre Pompidou fermera entièrement ses portes fin septembre pour 5 ans de rénovation.
Un reportage signé Vincent Danilo. 6 personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants et incarcérées. Elles avaient été arrêtées à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec 221 kilos de cocaïne dans leur bagage. Le service des douanes parle d'une saisie record dans le secteur voyageur pour une valeur de plus de 6 millions d'euros à la revente. On termine ce 24 heures en France par quelques mots de football avec les résultats de la 25e journée du championnat de France. Brest a battu Angers 2-0, Auxerre a battu Reims 2-0 également, Nantes-Strasbourg 0-1 et Le Havre-Saint-Étienne 1 partout. RFI 23h10 à Paris, 22h10 en temps universel. Prochain journal dans 50 minutes consacré à l'actualité internationale.